Chapitre 13. Quelqu'un dans la foule. L'hiver fut très rigoureux cette année-là. Sarah eut à faire des commissions en pataugeant dans la neige, et ce fut pire encore au moment où la neige, en fondant, transforma les rues en lacs de boue. D'autres jours, le brouillard était si épais que les rues devaient être éclairées constamment, comme au jour déjà si lointain où une voiture avait traversé Londres, contenant Sarah se pelotonnant contre l'épaule de son père. Ces jours-là, les fenêtres de la maison de la grande famille montraient un intérieur particulièrement confortable et avenant. Chez le monsieur indien, elles reflétaient les flammes du foyer et les riches teintes des étoffes d'Orient. La mansarde était d'une tristesse indescriptible. Il n'y avait plus pour Sarah ni lever ni coucher de soleil à contempler, et presque plus jamais d'étoiles. Les nuages descendaient à la hauteur de la lucarne, et, gris ou brun, laissait tomber des torrents de pluie. À 4 heures de l'après-midi, qu'il y eût du brouillard ou non, la nuit tombait. Ce vilain temps rendait plus acariâtre encore les femmes de la cuisine, et on faisait marcher Becky comme une pauvre ilote.
« Si je ne vous avais pas, mademoiselle, » dit Becky d'une voix enrouée un certain soir qu'elle s'était glissée chez Sarah, « et s'il n'y avait pas la Bastille où nous habitons des cellules contiguës, je crois que je ne pourrais plus vivre, car tout cela constitue bien une réalité. La directrice ressemble de plus en plus à un geôlier en chef. Il me semble l'avoir armé des grosses clés dont vous m'avez parlé. La cuisinière est un de ses sous-ordres. Décrivez-moi encore, mademoiselle, le passage souterrain que nous avons creusé sous le mur. »
« Je vais vous parler de choses plus réchauffantes, » répondit Sarah, toute grelottante. « Allez chercher votre couverture. » Je prendrai la mienne, nous nous assiérons sur mon lit et nous serrerons l'une contre l'autre. Je vous parlerai des forêts tropicales où vivait le singe du monsieur indien. Quand je le vois assis sur la table auprès de la fenêtre et regardant dans la rue l'air mélancolique, je suis persuadé qu'il pense à sa forêt d'origine, où il avait l'habitude de vivre et de se suspendre par la queue aux branches des cocotiers. Je me demande qui l'a capturé, et s'il a laissé là-bas une famille qui attendait de lui les noix de coco nécessaires à sa subsistance.
Oui, il est vrai, ce récit me réchauffe davantage, avoua Becky avec reconnaissance. Mais même la Bastille me réchauffe, quand c'est vous qui en parlez.
C'est parce que cela vous distrait, dit Sarah, en s'enveloppant de la couverture de manière à ne laisser paraître que sa tête brune. J'ai remarqué que le plus sûr moyen de ne pas penser à la douleur physique, c'est d'obliger son esprit à s'en détacher.
« Est-ce que vous pouvez y arriver, mademoiselle ?» dit Becky en la regardant avec des yeux pleins d'admiration.
Sarah fronça les sourcils.
« Je ne réussis pas toujours, » répondit-elle avec franchise. « Mais je crois qu'on pourrait toujours obtenir ce résultat si on en prenait l'habitude. Je m'y suis exercée dernièrement, et déjà, cela me semble moins difficile. Quand tout va de travers, c'est alors que je m'imagine, de toute ma volonté, que je suis une princesse. Je me répète, je suis une princesse du royaume des fées. Rien donc ne peut m'atteindre et me faire souffrir. Vous ne pouvez pas savoir combien cela m'aide à oublier, » conclut-elle en riant.
Et certes, ses occasions d'exercer son stoïcisme ne lui manquèrent pas, mais sa volonté ne fut peut-être jamais plus rudement mise à l'épreuve qu'un certain jour, dont le souvenir ne s'effaça jamais de sa mémoire. Pendant plusieurs jours, il avait plu sans arrêt. Dans les rues, des flaques d'une eau glacée, la brume maussade et pénétrante, partout de la boue, cette boue gluante de Londres, et, pour comble de misère, un manteau de brouillard pesant sur la ville et s'infiltrant dans toutes les maisons. Comme il est naturel, les commissions à faire étaient particulièrement longues et fatigantes ce jour-là. Par un temps pareil, elle ne manquait jamais de l'être. Mais elles le furent à ce point pour Sarah que ses pauvres vêtements finirent par être trempés. Les vieilles plumes ridicules de son misérable chapeau pendaient lamentablement, et ses pauvres souliers éculés se remplissaient d'eau à chaque pas. Il faut ajouter à cela qu'elle avait le ventre creux, parce que Miss Minchin, en manière de punition, l'avait privée de dîner. Elle avait si froid, si faim. Elle était si recrue de fatigue que son visage pâle et douloureux et sa pauvre mine inspiraient de la compassion
aux passants bienveillants. Mais elle ne s'en rendait pas compte, avançant vite, forçant son esprit à penser à autre chose. Bien qu'elle y employât tout ce qui lui restait d'énergie, cette fois-ci vraiment, la tâche était au-dessus de ses forces. Elle persévéra cependant dans ses efforts, et tandis que l'eau boueuse giclait à travers ses souliers percés et que le vent s'acharnait à lui arracher sa petite jaquette élimée, elle se parlait à elle-même en marchant, mais sans remuer ses lèvres. « Supposons que j'ai des habits secs, de bons souliers, un manteau épais, des bas de laine et un confortable parapluie. Supposons encore qu'au moment où j'arrive devant un boulanger où l'on vend des petits pains chauds, je trouve une pièce de 10 sous qui n'appartient à personne, que j'entre dans la boutique et y achète pour 10 sous de petits pains, enfin que je les mange tous d'un trait. Il arrive parfois que les choses les plus invraisemblables deviennent réalité. Il en fut ainsi pour Sarah, en l'occurrence. Elle traversait la rue au moment de faire une telle supposition. Pour éviter la boue, elle devait choisir les endroits où poser le pied et regarder par conséquent à terre. Or, au moment où elle atteignait le trottoir opposé, elle aperçut dans le ruisseau un objet brillant. C'était une pièce de 50 centimes. Une petite pièce, bien souvent foulée aux pieds, mais qui avait encore assez de vie pour briller au milieu de la boue. En un instant, la petite pièce fut dans sa main. « Oh !» dit Sarah, suffoquée de surprise. « C'est donc vrai !» Et alors, s'il voulait bien m'en croire, lorsqu'elle releva les yeux, elle se trouva en face d'une boulangerie. La boulangère, une brave femme, à la mine réjouie et à l'air maternel, plaçait précisément à son étalage le contenu d'un plateau de petits pains tout chauds et qui venait de sortir du four. Ils étaient dorés, appétissants. Sarah se sentit presque défaillir à la vue de ces petits pains et à l'odeur exquise qui s'exhalait du sous-sol de la boulangerie. Elle savait qu'elle pouvait disposer sans remords de la petite pièce ramassée dans le ruisseau, car elle y était sans doute tombée depuis longtemps. Et au milieu de cette foule, qui passait et se bousculait, comment en retrouver le propriétaire ? « Je vais aller demander à la boulangère si c'est elle qui l'a perdue », se dit-elle sans conviction. Elle traversa donc le trottoir, mais au moment où elle posait le pied sur la marche d'entrée, elle s'arrêta. Elle venait d'apercevoir une pauvre créature, plus misérable encore qu'elle-même, ou plutôt un paquet de guenilles, d'où s'échappaient de petits pieds nus, rouges de froid et souillés de boue. Au-dessus du paquet, une tête ébouriffée et une petite figure sale, trouée de grands yeux enfoncés et creusés par la faim. À cette vue, Sarah ressentit une soudaine pitié. Elle est plus affamée que moi. L'enfant leva les yeux sur Sarah et se rangea pour lui permettre de passer. Elle était habituée à laisser tout le monde passer et savait que si un sergent de ville venait à la découvrir, il lui dirait « Circulez !» Sarah serra bien fort dans sa main la petite pièce et eut un moment d'hésitation, puis s'adressant à la pauvrette « Avez-vous faim ?» L'enfant s'éloigna un peu plus, elle et ses guenilles. « Oh là là, si j'ai faim » répondit-elle d'une voix enrouée. « Est-ce que vous n'avez pas dîné ?» reprit Sarah, d'une voix plus enrouée encore et en s'écartant davantage. « Ni dîner, ni déjeuner, ni souper, ni rien. Et depuis quand ? Je ne sais pas, on ne m'a rien donné nulle part. J'ai mendié, mais mendié en vain. » À la regarder seulement, Sarah se sentait plus affamée et plus faible, mais les mêmes pensées traversaient toujours son imagination, et elle continuait à se dire « Si j'étais une princesse, quand les princesses tombaient dans la misère, après avoir été chassées de leur trône, elles partageaient toujours avec de plus pauvres et de plus affamés qu'elles. Les petits pains doivent coûter 2 sous chacun. 5 petits pains, ce sera peu pour 2, mais tout de même mieux que rien. « Attendez-moi une minute, » dit-elle à la petite mendiante. Elle entra dans la boutique, et il y faisait très bon, et on y sentait la délicieuse odeur du pain. « S'il vous plaît, madame, » dit Sarah, « n'avez-vous pas perdu une pièce de 10 sous ?» Et elle lui tendit la petite pièce. La boulangère regarda la pièce et puis l'enfant. Son visage, si expressif et ses pauvres vêtements, beaux autrefois mais maintenant si misérables.
« Non, répondit-elle. Mon Dieu, non. L'avez-vous trouvé ?»«
Oui, dit Sarah, dans le ruisseau. »«
Gardez-la donc, dit la femme. Il y a peut-être une semaine qu'elle y est, et qui peut savoir qui l'a perdue ?»«
Je le sais bien, dit Sarah, mais j'ai cru devoir vous le demander. » »«
Il n'y en a pas beaucoup qui en feraient autant, dit la femme d'un air attendri, intéressée et intriguée à la fois.
« Est-ce que vous voulez acheter quelque chose ?»«
5 petits pains de 2 sous, je vous prie, » dit Sarah.
La femme alla à l'étalage et en mit quelques-uns dans un sac de papier. Sarah remarqua qu'elle en mettait 6.
« J'en ai demandé 5, s'il vous plaît. Je n'ai que 50 centimes. »«
J'en mets 6, pour faire la demi-douzaine, » dit la boulangère avec un bon regard.
« Je suis bien sûre que vous les mangerez une fois ou l'autre. »
« Est-ce que vous n'avez pas faim ?»
Les yeux de Sarah s'embrumèrent.
« Si, répondit-elle, j'ai grand faim, et je vous suis très obligée de votre bonté. » Et
elle allait ajouter, « Il y a une petite fille dehors qui a plus faim que moi. » Mais juste à ce moment-là, 2 ou 3 clients entrèrent, et comme ils y semblaient pressés, Sarah ne put que remercier et sortir. La petite mendiante était encore accroupie sur le seuil. Elle était repoussante dans ses haillons et regardait fixement devant elle, avec une expression hébétée par la souffrance. Sarah la vit passer le revers de sa main calleuse sur son visage pour essuyer des larmes qui coulaient,
malgré elle, de ses yeux. Elle murmurait des paroles incohérentes.
Sarah ouvrit le sac de papier et en sortit un des petits pains. Ils avaient déjà un peu réchauffé ses mains gelées.
« Tenez, dit-elle, en posant le petit pain sur les genoux de la mendiante. « Voici qui est bon et chaud. Mangez-le, et vous n'aurez plus si faim. »
L'enfant sursauta et leva les yeux sur Sarah, comme si elle avait presque peur de cette chance inespérée. Elle saisit le petit pain et se mit à le dévorer gloutonnement.
« Oh, que c'est bon !» répétait la pauvrette avec ravissement.
Sarah prit 3 autres petits pains et les lui donna. Ils furent engloutis comme le premier.
« Elle a plus faim que moi, » se dit-elle, mais sa main tremblait en donnant le 5e.
« Je ne meurs pas de faim, moi, » se dit-elle. Quand Sarah la quitta, la petite sauvage affamée était trop occupée à dévorer pour la remercier, en admettant même qu'elle lui a pris la politesse. Ce n'était qu'un pauvre petit animal sauvage qui n'avait pas été apprivoisé.
« Adieu, dit Sarah. »
Après avoir traversé la rue, elle se retourna. L'enfant avait un petit pain dans chaque main et s'était interrompu de manger pour regarder Sarah s'éloigner. Celle-ci lui fit un petit signe d'amitié auquel l'enfant répondit par un regard étonné en secouant sa tête ébouriffée. Et jusqu'à ce que Sarah eût disparu, elle ne la quitta pas des yeux. Mais la boulangère avait suivi la scène à travers la fenêtre de sa boutique.
« A-t-on jamais vu ? » s'exclama-t-elle. « Est-ce que cette petite n'a pas donné ses pains à cette mendiante ? Et ce n'est pas parce qu'elle n'en avait pas envie elle-même. Je voudrais bien savoir pourquoi elle a fait cela. »
Elle resta quelques instants derrière sa fenêtre à réfléchir. Puis sa curiosité l'emporta. Elle ouvrit sa porte et interrogea la petite mendiante. « Qui vous a donné ces petits pains ?» L'enfant d'un signe de main indiqua la silhouette de Sarah qui disparaissait.
« Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?»«
Elle m'a demandé si j'avais faim, » répondit la petite voix éraillée.
« Et qu'avez-vous répondu ?»«
Que j'avais grand faim. »
Alors elle est entrée acheter les petits pains et vous les a donnés, n'est-ce pas ? »
L'enfant fit de la tête un signe affirmatif.
« Combien ?»«
5. »
Elle n'en a donc gardé qu'un pour elle, se dit la boulangère. Elle aurait bien mangé les 6, cela se voyait dans ses yeux.
Et suivant du regard la pauvre petite silhouette qui s'éloignait, elle se sentit émue comme elle ne l'avait pas été depuis longtemps.
« Oh, je regrette qu'elle soit partie si vite. Je lui en aurais donné 12. »
Puis se retournant vers l'enfant, « Avez-vous encore faim ?»«
J'ai toujours faim, » répondit-elle, « mais cela ne va pas si mal que tout à l'heure. »
« Entrez, » dit la boulangère en ouvrant la porte de sa boutique. L'enfant se leva et entra, en traînant les pieds.
Être invité à pénétrer dans un endroit chaud et sentant bon le pain lui semblait une chose incroyable. Elle ne savait pas ce qui allait lui arriver et ne s'en préoccupait guère. « Chauffez-vous, » dit la femme, lui montrant un petit feu dans l'arrière-boutique, « et quand vous aurez grand besoin d'un morceau de pain, vous viendrez ici le demander. Je veux bien être pendu si je ne vous le donne pas, en souvenir de cette petite. » Sarah se réconforta un peu avec le petit pain qui lui restait. Il était au moins très chaud et cela valait mieux que rien. Tout en marchant, elle en grignotait de petits morceaux pour le faire durer plus longtemps. « Si c'était un petit pain enchanté, se dit-elle, et si une seule bouchée vous nourrissait autant que tout un dîner, j'aurais même une indigestion si je continuais de ce train-là. » Il faisait nuit quand elle arriva dans le square. Toutes les maisons étaient éclairées. Les stores n'étaient pas encore baissés chez la grande famille. Souvent, à cette heure, elle apercevait M. Montmorency assis dans un grand fauteuil avec, autour de lui, un essaim d'enfants, bavardant, riant, et se perchant sur les bras du fauteuil ou assis sur ses genoux. Ce soir-là, il était évident qu'il allait partir en voyage. Une voiture chargée d'une grosse malle attendait devant la porte. Les enfants bavardaient, sautaient autour de leur père et s'accrochaient à lui. La jolie maman aux joues roses, debout auprès de lui, semblait lui faire ses dernières recommandations. Sarah s'arrêta un moment pour voir le papa soulever les petits et se baisser sur les grands pour les embrasser tous. « Je me demande s'il restera longtemps absent. Sa malle est volumineuse. Comme il va leur manquer. Il me manquera à moi-même, bien qu'il ne soupçonne pas mon existence. » Quand la porte s'ouvrit, Sarah s'éloigna, se souvenant de la pièce donnée par Donald. Mais elle eut le temps de voir le voyageur sortir, se détacher sur le fond éclairé de l'antichambre, toujours entouré de ses enfants. « Est-ce que Moscou sera sous la neige ?» demanda la petite Jeannette. « Montrez-vous dans une troïka ?» demanda un autre. « Verrez-vous le tsar ?»« Je vous écrirai tout cela, » répondit-il en riant, « et je vous enverrai des portraits, des moudjiks et d'autres souvenirs. Rentrez très vite, il fait si humide. J'aimerais mieux rester avec vous que d'aller à Moscou. Au revoir, mes chéris, portez-vous bien. » Il descendit les marches en courant et sauta dans la voiture. « Si vous trouvez la petite fille, faites-lui nos amitiés !» cria Guy en s'avançant. Et ils rentrèrent et fermèrent la porte. « Avez-vous vu passer la petite fille qui n'est pas une mendiante ?» dit Jeannette à Nova. « Elle paraissait gelée et trempée, et je l'ai vue qui s'est retournée pour nous regarder. Maman dit que ses vêtements doivent lui avoir été donnés par quelqu'un de très riche, mais alors qu'ils étaient complètement hors d'usage. On l'envoie toujours en course, par les temps les plus épouvantables. » Sarah traversa le square pour regagner la porte de Miss Minchin. Elle se sentait sans force et transie de froid. « Quelle est cette petite fille qu'il va chercher ?» se demandait-elle en prenant l'escalier de service. Son panier serré contre elle et qu'elle trouvait bien lourd. Pendant ce temps, le papa de la grande famille se dirigeait vers la gare en route pour Moscou, où il allait faire tous ses efforts pour retrouver la fille du capitaine Crowe.